Bonjour, Éric Godichaud, à Bâton Rompu, sur Radio Grand Ciel.
En ces temps de confinement, pourquoi ne pas voyager à la façon d'une fumée imprévisible, s'échappant du foyer, montant vers le ciel, si dissolvant? Une fois de plus, un proverbe sera contredit. Il y a bien de la fumée sans feu, puisque le motif du feu a été traité l'année dernière dans un de nos « À bâtons rompus ». Nous n'y reviendrons pas. Mon père était un homme froid, mais il y a toujours un mais. Il possédait, comme mon grand-père, l'art de cultiver de magnifiques jardins luxuriants, dominés, vus du ciel, par de somptueux tournesols, petits soleils rotatifs, enluminant notre paradis terrestre d'une broderie cousue de fils d'or. Chaque année, le jardin faisait table rase du passé. En automne, lorsque les floraisons s'éteignaient, mon père élaguait les arbres fruitiers, arrachait les plantes mortes ou celles qu'il voulait remplacer, et en nourrissait un grand feu à la forte odeur d'encens. Du haut de mes 8 ans, je contemplais la fumée qui s'en échappait, s'élargissait et brusquement trouvant un couloir d'air vers le ciel d'un bleu étal. Je l'apercevais à la fois visible, un peu cérise, grège aussi, mais jouant sur les choses, les rendant un peu plus vagues en leur contour, un ennuagement proche de la poésie. La fumée, ce n'est pas fumeux, loin de là, est un motif qui a de l'épaisseur. Nous allons, chers auditeurs, tenter d'en cerner l'indiscernable qu'elle recouvre par un écran dit de fumée. Au paradis, il y a tant de vagues et de fumées. Donc ne soyons pas fumeux, même si le tabac évidemment sera de la partie, comment faire autrement sans tomber dans l'enfer du politiquement correct? La fumée est d'abord, Claude Monet se plaira à la peindre au même titre que ces immatériels que sont la lumière, le brouillard, les miroitements à la surface de l'eau. La fumée, dis-je, est l'image de l'insaisissable, plus présente par son effet de flou sur les choses, d'effacement, que sa présence discrète est quasi invisible. Ne finit-elle pas par disparaître dans les derniers étages de la haute atmosphère où elle vient dire bonjour à ses petits frères, les nuages? Un des rares poèmes que j'ai pu trouver sur la fumée, ils sont rares, est un petit bijou de grâce et de préciosité, tiré d'Emo et Camé de Théophile Gautier, si proche de l'art tout musical de Paul Verlaine, mais avec une génération de décalage. Fumée, de Théophile Gautier. Là-bas, sous les arbres, s'abrite une chaumière au dos bossu. Le toit penche, le mur s'effrite, le seuil de la porte est moussu. La fenêtre, un volet la bouche, mais du taudis comme au temps froid la tiède haleine d'une bouche, la respiration se voit. Un tire-bouchon de fumée, tournant son mince filet bleu, de l'âme en se bougeant fermé, porte des nouvelles à Dieu.
Y a tant de vagues et de fumée. N'arrive plus à distinguer le blanc du noir. noir et l'énergie du désespoir. Le téléphone pourra sonner, il n'y aura plus d'abonnés et plus d'idées que le silence pour respirer. Recommencer là où le monde a commencé. Je m'en irai dormir dans le paradis blanc, où les nuits sont si longues qu'on en oublie le temps. Tout seul avec le vent, comme dans mes rêves d'enfant. Je m'en irai courir dans le paradis blanc, loin des regards de haine.
Du côté paternel, mes ancêtres étaient charbonniers. Je m'amuse à penser que mon goût pour l'écriture, j'écris toujours en noir, comme un hommage à ses obscurs parents, tient de ce passé très ancien, avec toujours l'idée d'éclairer le sujet, de l'éclairer de l'intérieur. Au plus profond de la forêt, afin de fabriquer le charbon de bois, habitant près du foyer, une cabane au toit moussu, les charbonniers construisaient une meule, c'est son nom, en bois de hêtre, non pas en bois d'hêtre, édifice rendu étanche par une couche d'herbe et de mousse le recouvrant. Ainsi, le bois pouvait brûler sans que l'air n'entre à l'intérieur. Plusieurs jours, plusieurs semaines, comme un texte écrit dans l'arche du bureau où nous travaillons, ne laissant que le squelette carbonisé des cellules ligneuses, d'où le peu de poids du charbon, le peu de poids de ce que nous écrivons pour tendre à la légèreté. Lorsque le charbonnier mettait le feu à la meule, le bois rougeoyait, le charbonnier patient observait la fumée. Si la fumée blanche et propre de la page continuait à sortir, ce n'était pas le moment. Et lorsque la fumée noire et grise, crevant la surface de la meule, envahissait la page et avait tout obscurci, le charbonnier savait que son œuvre était accomplie. L'écrivain pouvait entrevoir la lumière. Après cette petite fugue à deux voix, le charbonnier et l'écrivain, je vous propose un reportage parlant du danger des fumées toxiques dans un incendie.
On le sait, dans un incendie, ce sont les fumées qui tuent bien avant les flammes. Les fumées sont complexes et elles entraînent de multiples phénomènes. Pour mieux comprendre, suivez-moi dans un voyage au cœur des fumées. La première chose que l'on remarque, c'est l'opacité. Ici, on perd ses repères. Pourquoi ? Cela est dû à la composition des fumées. Voyons cela en laboratoire.
Les fumées sont constituées de particules solides imbrûlées, d'aérosols, de vapeurs d'eau, de gaz de combustion. La taille de ces différentes particules varie entre 1 dixième et 10 microns, c'est-à-dire jusqu'à 1000 fois plus fine qu'un cheveu. En fonction de leur composition et de la taille des particules, les fumées n'auront pas la même couleur. On peut donc lire dans les fumées. Ici, elle est blanche, car elle contient surtout des aérosols et de la vapeur d'eau. La fumée grise aura en plus de petites particules solides. On la rencontre par exemple lors de feux de carton contenant des emballages plastiques. La fumée noire est constituée de grosses particules de suie, comme par exemple dans le cas de feux d'hydrocarbures. Mais les dangers des fumées sont essentiellement dus à la température, à la présence de gaz toxiques et bien sûr au manque d'oxygène. Dans les incendies, les concentrations de gaz toxiques sont généralement très élevées. Pour tout savoir sur la toxicité des fumées, retour en laboratoire. Les gaz invisibles, les aérosols et les particules solides ont tous un effet sur l'homme. On peut compter plus de 140 composants susceptibles d'affecter la santé des personnes. Parmi les plus dangereux, le monoxyde de carbone, le CO. D'autres gaz acides, comme l'acide chlorhydrique ou sulfurique, sont très corrosifs. Ils représentent un danger aussi bien pour l'organisme que pour les éléments du bâtiment ou les biens situés dans le local, structures métalliques, composants électroniques, etc.
Les fumées sont opaques. Le manque de visibilité peut empêcher l'évacuation et retarder l'intervention des secours. Les fumées ont également tendance à occuper le maximum de volume. Il est possible d'estimer le temps mis par les fumées pour envahir un local. Ainsi, une distance de 40 mètres peut être parcourue en moins de 4 minutes.
En raison de leur faible densité, les fumées chaudes ont tendance à s'élever vers le plafond et à s'accumuler en couches. Ce phénomène est appelé stratification. La visibilité est généralement meilleure près du sol et la température plus acceptable. Ceci facilite le travail des équipes de secours. Les fumées sont aussi un facteur important de propagation de l'incendie en raison de leur température qui facilite l'inflammation des matériaux combustibles. Leur température peut en effet atteindre 800 degrés. Elles contiennent également de nombreux gaz imbrûlés susceptibles de s'enflammer.
Une technique de peinture utilise un effet dit de fumée appelé en italien sfumato. L'inventeur de cette technique fut le grand Léonard de Vinci. Elle consiste à reproduire la façon qu'a notre œil de ne pas séparer les éléments visuels entre eux, mais de les fondre en une globalité. Pour cela, il rend plus floues les zones de passage entre chaque élément, les fondant, je pense au moelleux d'un fondant au chocolat, dans une matière presque uniforme. Quoique cela soit une illusion, notre œil, via notre cerveau qui traite non les images, mais les impulsions électriques tout le long du nerf optique, se recomposant alors en un tableau plus proche d'une image pixelisée d'ordinateur qu'un simple reflet, la frontière entre chaque chose, la profondeur des plans, est comme noyée, dissoute, dans un effet poétique et féerique d'aura, de fumée bordant avec délicatesse les contours des objets et des êtres. On retrouve ce procédé chez Vermeer via la caméra obscura. Aussi, si l'on observe attentivement la Joconde, entre le drapé et la chair, le paysage au lointain, il n'y a pas de séparation distincte et nette. L'effet de fumée réunit tout dans une image parfaite du monde, qui lui, en réalité, est plutôt chaos, déchirement, impossibilité de tout lier, parce que la séparation première est celle d'avec nous-mêmes, que Jacques Lacan résume par l'idée d'un sujet barré pris dans les raies du grand autre. Nous ne pouvions y échapper, voici maintenant un poème fumé où Mallarmé pose une équivalence quasi mystique entre l'usage du cigare et l'acte poétique en lui-même. Hommage, toute l'âme résumée quand lente nous l'expirons dans plusieurs ronds de fumée abolie en autres ronds, atteste quelques cigares, brûlant savamment pour peu que la cendre se sépare de son clair baiser de feu. Aussi, le cœur des romances à la lèvre vole-t-il, excluant, si tu commences, le réel parce que vil, le sens trop précis rature ta vague littérature. À la suite de Mallarmé, de Jean de Mai, à sa rime, un magnifique célébration de la pipe dans son écrin brun, c'est la couleur du livre, couleur bruyère, par la grâce de Robert Morel qui fabriquait de merveilleux petits livres où il glissait parfois une petite carte de visite libellée « Hommage de l'éditeur ». Autre époque. Hypnose. La pipe donc nous ouvre, comme disait un grand fumeur honoraire, cet autre monde qui est l'homme. Mais comment ? Par une variété très subtile de sommeil hypnotique. L'apiculteur enfume l'abeille pour lui prendre son miel. L'homme s'enfume avec sa pipe pour partir, à son insu le plus souvent, à la recherche d'un miel intérieur qui est lui-même et le monde buriné par lui qui est la substance et saveur de sa nature, et de son destin. On tire sur la pipe. Le fourneau est bien bourré. Sous sa couronne de braise, à la moindre sollicitation du soufre, le tabac va se muer en son encens. À la moindre sollicitation et, semble-t-il, inépuisablement. De même que dans certains jeux, la balançoire, ou telle recherche de détente, le fauteuil à bascule, ou l'installation de mouvements intérieurs, d'où l'agrément de tout ce qui entraîne course d'un train, musique, style, ce que le fumeur recherche sans le savoir, c'est une double magie. Sans difficulté, cesser d'être désagréablement rythme berceur ou accéder à plus d'être rythme moteur. Qu'est-ce là, sinon rêverie ? Tel est le monde multiple et un que nous ouvre la pipe. Et maintenant, la fumée des cigarettes.
Ceux qui blaguent l'amour me disaient toujours que chez les amants rien n'est plus courant que l'aveuglement. Car un cœur un peu chaud s'enflamme aussitôt. Et nuages bleus, la fumée bientôt obscurcit les yeux. Je riais de ces discours jaloux, gardant mon bonheur si doux. Mais hélas, cet immortel amour n'a duré qu'un seul jour. Et je réponds aux gens qui me voient pleurant. Bien longtemps brûle encore les yeux.
Autre grand amateur de cigares, Freud disait de lui-même, malgré les tracas que lui fit l'usage invétéré de ce stupéfiant, un cancer de la mâchoire qui dura plus de 20 ans, « Je dois au cigare, dit Freud, un grand accroissement de ma capacité de travail et une meilleure maîtrise de moi-même. » La psychanalyse dans les années 70, période faste pour notre pratique qui n'est plus qu'un lointain souvenir, n'allait pas sans le nuage de fumée, comme le panache de roches et de glace qui accompagne les comètes dans une traversée du ciel, soulignant la ressemblance entre la figure du psychanalyste, Lacan osait dire un saint, non sans ironie mordante, et la pitié de Delphes, dont les oracles étaient, dit-on, stimulés par les fumées toxiques qui passaient à travers les infractuosités du rocher. Petite parenthèse, l'inconscient n'est pas discernable, ce n'est pas une chose, c'est précisément comme la fumée, sortant du foyer, foyer que nous ne pouvons atteindre, un immatériel non représentable. L'inconscient ne s'enferme pas dans une cage. Il est comme le furet, il passera par là ou passera par ici, fuyant, toujours fuyant. Il, tu sais, l'inconscient, surgit d'un feu dont nous n'aurons jamais une expérience directe, art du différé, du réfracté. Ainsi est-il, Lacan le soulignait, très difficile d'expliquer ce qui se passe réellement dans une cure et le temps plus limité d'une séance, par exemple. Il, l'inconscient, n'est apparent que dans l'inapparent absolu de ses manifestations, à la fois découvert et recouvert dans un même mouvement d'ouverture et d'obturation. Aimer et travailler, même en fumant, voilà ce que Freud considère comme une vie bonne, une vie neuve. Et la chanson que nous allons écouter dit précisément le contraire, voulant garder à la fois le beurre et l'argent du beurre.
Ma chambre a la forme d'une cage, le soleil passe son bras par la fenêtre, les chasseurs à ma porte comme les petits soldats qui veulent me prendre. Je ne veux pas travailler, je ne veux pas déjeuner, je veux seulement oublier, et puis je fume. Déjà j'ai connu le parfum de l'amour, un million de roses n'embarberait pas autant. Maintenant une seule fleur dans mes entourages me rend.
On croit que la fumée, c'est du gâteau. On aura vite fait le tour, si j'ose, mais comme tout ce qui forme le réel, une fumée peut en cacher une autre. Son territoire est aussi vaste qu'un continent de terre ferme, elle qui est pourtant légèreté même, insaisissable, si j'ose un néologisme, un insaisissement. Rapidement, l'élection du pape depuis le 19e obéit à une coutume amusante, proche des Indiens qui pouvaient communiquer entre eux par des rondes fumées au sommet des canyons. À l'issue du vote, le public impatient qui se presse sur la grande place du Vatican doit pouvoir lire clairement la fumée qui sortira d'une cheminée installée pour l'occasion. À l'inverse de ce que guettait le charbonnier, si elle est noire, le vote doit recommencer. Blanche, l'affaire est pliée. Ayant répondu favorablement à la question du doyen des cardinaux, le pape, après avoir choisi son nom, peut se diriger vers le balcon et saluer la foule. Pour la fumée blanche, on utilise un ajout de paille humide aux notes et bulletins brûlés dans le poêle, et pour la fumée noire, on y incorporait du goudron. Depuis le conclave de 2005, des fumigènes colorants fabriqués par un poêle auxiliaire permettent d'éviter toute confusion, car parfois le gris brouillait les pistes. Et l'encens, me dites-vous? Oui, l'encens ou l'encens, car on doit pouvoir prononcer le S. L'encens est un mot relativement tardif, surgissant vers 1135 du mot latin incensum, qui désigne une matière brûlée en sacrifice. l'encens ou l'encens qui parfume nos églises efface les parois et nous fait entrer dans une autre dimension, celle de la présence-absence du divin, dont la fumée est l'image de ce découvrement-recouvrement. Comme le curie, c'est un nom unique de sens général qui recoupe une multiplicité d'éléments particuliers. Son énumération, vous allez voir, un panache qui nous fait voyager et rêver grâce à cette effusion lexicale et nous met au parfum de son inépuisable pouvoir d'évocation. Ainsi trouve-t-on dans l'encens le camphre de Bornéo, le benjoin de Sumatra, l'oliban blanc, l'oliban doré, le baume de Tolu, la myrrhe de Somalie, le labdanum, l'opoponax, on dirait le nom d'un animal légendaire, et la poudre de santal blanc. L'évangile selon saint Matthieu souligne avec discrétion le pouvoir magique de l'encens, puisque ce sont les mages eux-mêmes qui viennent déposer leur présent au pied de l'enfant. Je cite, « Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ensuite, ils ouvrirent leur trésor et lui offrirent en cadeau de l'or, de l'encens et de la myrrhe. » Eh bien, à mon tour, je vous offre cette émission, à l'instant même où elle se termine, déjà disparue, comme une fumée se perdant au ciel. Non, attendez. Changement de programme. Simon, j'allais oublier. Depuis longtemps, lorsque j'écris, je brûle un papier d'Arménie dans une soucoupe réservée à cet usage. Comme la notice à l'intérieur le proclame, depuis 1885, le papier d'Arménie triple est le plus ancien parfum d'intérieur. J'avais complètement oublié ce parfum de benjoin lorsque les nuages de l'oubli se dispersèrent et laissèrent à la pleine vision d'un lever de soleil l'édifice entier du souvenir. Il y a 20 ans, je découpais le mince rectangle, le pliais précautionneusement en accordéon, l'enflammais et soufflais dessus pour l'éteindre. À l'instant même où l'odeur suave et forestière arrivait à mes narines, je sus que cette odeur, je l'avais oubliée et dispersée par le recouvrement des couches successives du souvenir, à l'image du petit accordéon qui se consumait timidement, peu à peu, dans un dépliement presque instantané. Les murs de la petite maison de mes grands-parents à Bec se levèrent un à un, comme un seul homme, reconstruisant avec une précision incroyable le lieu accroché à sa trace odorante. Ce lieu où, pour que cela sente bon, odeur associée au bonheur, à l'ensoleillement des mimosas près du mur, de leur chambre toujours noire pour garder la fraîcheur, mes grands-parents, de nouveau vivants et ayant vaincu la mort, faisaient brûler eux aussi, dans une petite soucoupe à café, le papier d'Arménie, propice en sa fumée grise à toutes les rêveries, les vitraux colorés que souligne en leur contour la grisaille comme de petites touches de fumée. Je remercie une fois de plus Simon à la technique et au montage radiophonique, et peut-être sans confinement, nous l'espérons, au mois prochain, pour une émission encore sur l'insaisissable, le mi-mort, le mi-vivant, à savoir les fantômes.